Les parts actualités. Mardi 21 mars 2017, ça y est, nous y sommes au printemps, même si ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. Bonjour, c'est Clotilde Sey qui vous parle en direct du studio de Canal M pour vous présenter les paractualités et les titres du jour. C'est une primeur, Québec dévoile son plan pour l'autisme. Métro, un nouvel ascenseur accumule les pannes. Incapable d'accéder à sa rue, une malvoyante en appelle au civisme. Et également, baisse importante de financement pour le TAC, autrement dit le transport adapté collectif de la MRC de Rivière-du-Nord. Aussi à l'émission, c'est au national, l'éducation ne représente pas toujours une porte ouverte pour les personnes à besoins particuliers au Canada. Et puis Sesame Street accueille un personnage autiste, c'est également une nouvelle qui vient de sortir. Deux entrevues encore aujourd'hui, notamment avec Karine Jacques de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Il sera bien sûr à nouveau question du congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage auquel Canal M est partenaire du 22 au 24 mars et il sera question d'autisme aussi avec Edith Case. Alors tout cela, c'est dans le cadre des paractualités. Alors ça y est, Québec dévoile son plan tant attendu pour l'autisme, écrit Ariane Lacourcière il y a quelques minutes dans la presse. D'ici 2022, les 700 familles qui attendent d'obtenir des services de répit, de dépannage ou de gardiennage pour leur enfant autiste auront reçu de l'aide, prévoit le gouvernement. Dans son plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme dévoilé ce matin, le gouvernement propose 35 actions totalisant 29 millions de dollars par année jusqu'en 2022. Afin de supporter cette clientèle. La liste d'attente d'enfants de 0 à 5 ans en attente de services d'aide en autisme, dont des services d'intervention comportementale intensive, ICI, diminuera de 45 % annonce la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois. C'est donc 500 enfants de moins qui seront en attente. Des professionnels seront embauchés afin de faciliter l'obtention d'un diagnostic pour les enfants, ajoute le ministère de la Santé Gaëtan Barrette. Actuellement, devant l'importance de l'attente pour obtenir un diagnostic en autisme, plusieurs familles doivent dépenser des milliers de dollars en se tournant vers le privé. Chaque enfant se verra accorder un intervenant pivot dès l'obtention des premiers services afin de coordonner l'ensemble des soins et des services qui lui seront offerts. Également, du soutien financier sera accordé à des organismes communautaires afin de créer de nouvelles places de répit. Aussi, des ententes seront également conclues afin d'offrir plus de soutien aux adultes autistes à la fin de leur scolarisation à 21 ans. Le ministre Barrette insiste pour annoncer que 1,25 million de dollars iront à la recherche en autisme. En autisme, la science est en train de s'écrire. L'évolution des connaissances passe par la recherche, dit M. Barrette. La majorité des fonds financeront des recherches visant à déterminer si l'ICI est réellement efficace ou non. Des travaux sont également en cours avec le Collège des médecins sur le surdiagnostic et la surmédication des enfants autistes. Depuis 2001, le nombre d'enfants ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme a augmenté de 850% au Québec. Le plan d'action du gouvernement a été conçu à la suite du forum sur les troubles du spectre de l'autisme tenu l'an dernier. Ça va donner de l'air et de l'espoir aux familles qui vivent des périodes de turbulence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, affirme Madame Charlebois. Métro de Montréal, un nouvel ascenseur accumule les pannes. Inauguré il y a à peine 2 ans, l'ascenseur de la station de métro Champ-de-Mars tombe fréquemment en panne. La Société de transport de Montréal, la STM, en attribue la faute aux abrasifs épandus sur les trottoirs qui finiraient par bloquer ses portes. Depuis quelques années, le transporteur montréalais est à aménager des ascenseurs dans plusieurs de ses stations de métro afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. En décembre 2014, elle inaugurait ainsi cet appareil au Champ de Mars, à la station Champ de Mars, aménagée dans le cadre de travaux de 12 millions pour la réfection de cette station. Devant l'ampleur du problème, le transporteur a décidé de faire appel au cours de la nuit à une inspection spéciale des portes de l'ascenseur et le STM précise par l'intermédiaire de Mme Régis, qui est son porte-parole, que le problème n'est pas répandu à l'ensemble des ascenseurs du réseau de métro, mais il ne s'agit pas d'un phénomène inconnu. Et le transporteur précise que ces petites roches peuvent également bloquer à l'occasion le mécanisme de certains escaliers mécaniques. Nous en parlions déjà hier. Nous sommes partenaires ici à Canal M du congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage qui aura lieu à partir de demain, 22 mars, et ce jusqu'au 24. Et dans le cadre de ce congrès, je continue d'avoir plusieurs invités en ligne, notamment aujourd'hui, c'est Madame Karine Jacques. Madame Jacques, vous êtes de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. À quel poste exactement êtes-vous?
Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, présentement, je travaille comme conseillère en rééducation.
D'accord.
À la formation générale des adultes.
D'accord.
Donc, à Sherbrooke, on accueille annuellement plus de 3500 élèves, majoritairement immigrants. 42% de notre population est immigrante.
Ah oui.
On fait beaucoup de francisation et beaucoup d'alphabétisation jusqu'en secondaire 5 aussi.
Ah, en effet, donc francisation et alphabétisation. Parfait.
Oui.
Et vous allez participer, Madame Jacques, intensivement hein, à ce congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage. Vous allez donner une conférence, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Donc, commence demain le 42e congrès, j'y participerai.
Mm-hmm.
Et jeudi en après-midi, je présenterai un atelier qui s'intitule TDAH, mon amour. Il s'agit en fait là, d'un cours que j'ai monté pendant mon congé de maternité.
Oui.
Pour parler aux étudiants de c'est quoi le TDAH et comment vivre et développer des stratégies pour s'aider tant à l'école qu'à la maison.
Alors, je voudrais tout de suite dire aux gens qui nous écoutent, parce que j'ai oublié de le préciser un petit peu plus tôt, que ce congrès a lieu à l'hôtel Westin à Montréal hein, et que donc c'est jeudi le 23 mars que vous y présenterez votre conférence à 15h. Vous êtes donc la bonne personne, peut-être, pour m'éclairer, mais plutôt, je devrais dire, pour nous éclairer sur le TDAH, parce qu'on entend tellement de choses, on entend tout et son contraire. Est-ce que vous pourriez me spécifier certains aspects du TDAH? Par exemple, quelles sont les particularités précisément du TDAH chez un enfant ou chez un adulte?
Alors, il est certain que moi, ma spécialité, ce sont les adultes.
D'accord.
Par contre, ce qu'on peut dire en général, c'est une difficulté, voire à une incapacité à inhiber certains comportements, à planifier, à organiser ou à schématiser l'information. Ce qui fait que les personnes présentant un TDAH n'ont pas une limitation cognitive. Loin de là. On remarque plutôt une augmentation là, du QI, un très fort QI.
D'accord.
Ce qui fait que ces personnes-là sont souvent des leaders, sont souvent là, des pionniers ou des personnes là, de référence dans leur contexte dans lequel ils travaillent. Par contre, le TDAH doit être motivé, doit s'intéresser pour vraiment s'investir dans une activité.
Alors, quand vous parlez de difficultés, j'ai du mal à vous suivre, mais je voudrais préciser un petit peu exactement quels sont les problèmes qu'ils rencontrent.
Alors, on peut parler de deux catégories, en fait. Mm-hmm. On parle de l'inattention et de l'hyperactivité ou de l'impulsivité. Quand on parle de difficulté d'attention, c'est une difficulté à maintenir son attention.
Okay.
On sait que chez un adulte dit normal, la capacité d'attention maximale est d'environ de 20 minutes. Alors que chez une personne présentant un TDAH, on parle de 5, 7 à 10 minutes.
D'accord.
Donc, ce sont des enfants et des adultes qui partent dans la lune, qui ont de la difficulté à suivre une conversation, qui ont de la difficulté à amorcer une tâche.
OK. Par exemple, on peut pas se dire, bon, allez, on peut pas lui dire, reviens avec nous, quoi. C'est parce que c'est pas si simple que ça.
Bien, effectivement. Par contre, il y a des trucs, ce sont des enfants et des adultes qui vont être très à l'aise ou très captivés par l'intonation de la voix quand on les interpelle par leur nom.
Okay.
Donc, quand on s'adresse à un groupe, ces enfants-là, ces personnes-là ne se sentent pas concernées Par contre, lorsqu'on l'interpelle et on dit « Roxane, regarde-moi
oui. »,
alors là, tout de suite, on va aller capter l'attention. Ce sont des enfants très kinesthésiques qui ont besoin de toucher pour comprendre, pour que l'information soit inscrite dans leur mémoire à long terme. Alors, de toucher les enfants, de toucher les adultes, c'est aussi une bonne stratégie pour les aider.
Bon, parce que ça, c'était ma prochaine question. Comment les aider, eux? Donc, ça, ce sont des bons outils que vous venez de nous donner. Maintenant, comment aider les parents, par exemple, pour les enfants ados ou pré-adultes? Comment on les aide, les parents?
Alors, comment on les aide, les parents? Alors, c'est sûr que on les aide en connaissant le jeune, en connaissant son enfant, en sachant qu'est-ce qu'il aime et en sachant quelles sont ses forces. C'est en partant des forces de la personne ayant un TDAH qu'on va réussir à aller chercher son attention et à aller chercher sa capacité maximale d'investissement dans une activité. Mais ce qu'on peut travailler, c'est énormément la routine, travailler avec les outils technologiques. Alors, ce sont des gens qui sont très forts en technologie et pour qui, lorsqu'on installe Antidote, WordCue, Lexibar, ou des logiciels comme Inspiration qui va aider à cartographier ou imaginer leur schéma, leur pensée, ça va vraiment beaucoup avoir de répercussions positives dans leur vie.
Qu'est-ce qui se passe si un parent est dans le déni du TDAH de son enfant? Ça doit arriver aussi.
Ça arrive fréquemment. C'est une phase normale du deuil. Alors, en fait, c'est que on travaille avec ce que l'adulte, ce que le parent est capable de voir. Hein?
Ouais.
Des fois, ça va être petit à petit qu'on va venir à bout de démystifier le TDAH et de regarder ensemble. Mais je travaille énormément avec le deuil, mais c'est pour ça que je travaille énormément avec les forces de l'adulte pour que lui qui inhibe un petit peu ses difficultés, qui ne veut pas les voir, bien, je vais aller miser sur ses forces, je vais aller miser sur l'organisation et sur la relation que j'ai avec le parent, avec l'enfant ou avec l'adulte.
Madame Jacques, Karine Jacques, j'imagine qu'il sera question beaucoup de tout cela dans le cadre de votre conférence. Est-ce qu'il y aura un autre élément peut-être important sur lequel vous allez insister?
Alors, en fait, je vais insister beaucoup, beaucoup, moi, principalement sur l'âge adulte et que c'est important de connaître le trouble et de se connaître soi pour pouvoir, en fait, mettre des stratégies en place pour s'aider tant à l'école, professionnellement, à la maison, dans notre vie amoureuse, etc.
Merci beaucoup. Tout ça me semble très, très passionnant, Madame Jacques. Je rappelle que vous donnez votre conférence le jeudi 23 mars à 15h à l'hôtel Westin à Montréal dans le cadre du 42e congrès annuel Institut des troubles d'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé un peu plus.
Cela me fait plaisir. Passez une belle journée.
Vous aussi, Madame Jacques. Au revoir.
Au revoir.
Information régionale maintenant. Incapable d'accéder à sa rue, une malvoyante appelle au civisme. Il s'agit d'un problème de stationnement, écrit René-Claude Doucet dans l'Hebdo Rive-Nord. Chaque hiver, les sorties peuvent rapidement devenir un casse-tête pour Jocelyne Roux, une repentinoise qui compose avec un important trouble de vision. Celle qui habite dans un immeuble à condo sur la rue La Fontaine se bute plusieurs fois par semaine à une voiture qui bloque l'accès à sa rue. L'immeuble où habite Madame Roux dispose d'une allée piétonnière qui relie la porte d'entrée à la rue. Et lorsqu'une voiture est stationnée directement devant l'allée, il devient impossible pour la résidente d'accéder à sa rue. En février, le voisin de Madame Roux, Claude Chartier, qui est également président du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, se rendait à la séance du conseil municipal afin d'exposer la situation à la ville. C'est la première fois que j'entends parler de cette problématique, a fait savoir David Legault, directeur général. Les résidents de l'immeuble n'ont que très peu ou pas de recours puisque la loi permet de stationner son véhicule devant une entrée piétonnière. Il s'agit d'une question de civisme, appuie M. Chartier en soulignant que la situation touche principalement Mme Roux en raison de sa condition, mais que l'ensemble des résidents de l'immeuble sont affectés. Par exemple, ils ont envisagé plusieurs scénarios pour terribles, comme l'an dernier, un voisin a eu un malaise, les ambulanciers ont dû sortir la civière en escaladant le banc de neige. Ceci explique cela. Et ils se demandent quelque chose. Ils se disent, pourquoi est-ce qu'on n'apposerait pas des pancartes interdisant le stationnement devant chaque entrée piétonnière, comme on le fait pour les garages? Alors, apparemment, la mairie a été ouverte à tout cela, mais elle est quand même relativement réticente à opérer un quelconque changement. Par actualité régionale toujours, une baisse importante de financement pour le TAC. Le TAC, c'est le transport adapté et collectif de la MRC Rivière du Nord, qui a vu ses subventions gouvernementales fondre dans les dernières années, c'est d'après un papier de Mathieu Sainte-Marie. En 2015 et 2016, l'organisme qui offre un service de taxibus et minibus a subi une coupe annuelle de 75 000 $ pour son service de transport collectif sur une subvention de 200 000 $ du ministère des Transports du Québec, le MTQ. C'est ce que rapporte Louise Bourgeois, la directrice générale du TAC. Pour avoir droit à cette subvention, nous devons avoir plus de 20 000 passagers, explique Mme Bourgeois, ce qui n'a pas toujours été le cas. En effet, si c'était le cas en 2015, en 2016, il y a eu à peu près un peu plus de 17 000 personnes utilisateurs de ce transport collectif. Alors, le président de l'organisme est maire de Prévost Germain Richer, je vais finir par l'avoir, croit que la hausse marquée de l'utilisation de l'automobile est le principal facteur. Cette hausse a même incité la ville de Saint-Jérôme à mettre sur pied un stationnement incitatif et un système de navettes gratuites pour diminuer la pression de stationnement dans les rues voisines au centre-ville, affirme celui qui note que la baisse d'utilisateurs est observable partout au Québec. Selon Mme Bourgeois, il est clair que cette coupe d'argent affecte l'organisme et selon la mairie et certains utilisateurs, on est inquiet parce qu'on dit que le service de l'organisme est un service absolument moribond. Alors, qui croire? Je ne sais pas. Elle est la directrice générale de l'Association du Québec pour les enfants avec un problème auditif. C'est l'AQEPA. On retrouve Mme Case, Edith Case. Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Mais oui, vous aussi?
Oui, très bien, merci. Alors, cette Association du Québec pour enfants avec problème auditif, donc l'AQEPA, on le rappelle, c'est un regroupement d'associations régionales, soit de parents, de professionnels de la santé et de membres sympathisants. C'est bien cela?
C'est ça, oui.
Alors, l'AQEPA, qui s'assure collectivement que ses enfants reçoivent évidemment toute l'aide dont ils ont besoin, de la naissance en passant par l'école, est-ce qu'on y parvient, Mme Case?
Oui, on y parvient. On a mis en place... Pour une histoire très courte, là, ça va faire 50 ans bientôt que l'AQEPA se bat justement pour des services pour les enfants. Et puis, oui, on y parvient parce que là, tout à coup, de plus en plus de monde se rendent compte de l'importance finalement d'agir pour aider les jeunes qui vivent avec une surdité. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place d'aide. Mais il y en a un en particulier, si vous voulez bien, que j'aimerais vous parler aujourd'hui.
Oui.
C'est le dépistage de la surdité.
Oui. Bien sûr, on allait y venir hein, parce qu'on s'y prend tellement de bonheur que finalement, on s'y prend même avant même que l'enfant soit né. Hein, c'est bien ça.
Pas tout à fait avant que l'enfant soit né. En fait, c'est vraiment à la naissance.
À la naissance, d'accord.
Le test est passé à l'hôpital au nouveau-né, mettons 24 heures après la naissance. C'est
d'accord.
Un test qui est facile, relativement facile à faire. Mais c'est un test d'une importance extrême.
Capitale.
Oui, parce qu'il faut comprendre que la surdité, là, qui est une déficience sensorielle, elle est présente chez environ 4 à 6 bébés sur 1000 au Québec.
Quand même, hein?
C'est quand même beaucoup.
C'est
là.
Beaucoup.
Oui, puis quand on fait le dépistage précoce, ça nous permet de poser un diagnostic de surdité rapidement. On gagne ainsi là, un temps précieux là, parce qu'on peut amorcer rapidement la réadaptation qui est adéquate. Là. Et puis, lorsque l'enfant est détecté tôt, s'il a accès à des interventions directement après la naissance, c'est tout son potentiel d'apprentissage qui est significativement amélioré. C'est dire dire que on peut le développement du langage l'enfant va se faire beaucoup plus rapidement.
On peut commencer quand, Madame Case, justement, avec l'apprentissage de ce langage en tant que tel? À partir de quel âge?
Lorsque l'enfant est dépisté, mettons que là, les parents et que l'enfant peut et que l'enfant est implanté, c'est-à-dire l'implant, qu'il reçoit l'implant cochléaire, on a un programme qui s'appelle le plaisir de lire, entre autres, que les parents vont être rencontrés par des intervenantes et on va aider l'acquisition, là, évidemment, à 3 mois. On ne parle pas d'acquisition de langage, mais du moins, il y a tous les signes, il y a le partage, etc. L'enfant réagit, tout ce qui se passe autour de lui. C'est ça, déjà, à la base, qui facilite là, son développement. Puis après ça, tout se met en place, toute s'acquiert. Là. Mais voyez-vous, ce programme-là, la difficulté que nous avons encore, c'est qu'il n'est pas implanté partout au Québec. En fait, ça fait plus de 20 ans que l'AQEPA, entre autres, et plein d'autres organismes et de spécialistes de la santé se battent pour que ce programme soit mis en place partout au Québec. Finalement, c'est plus en 2009 là, que le gouvernement a finalement décidé que, oui, ce programme-là devait absolument être implanté. Mais aujourd'hui, ça va quand même, je vous l'avoue, bon train. Là. Ça tout part pas mal maintenant du sud de Sainte-Justine. Là.
Oui.
Alors, il y avait beaucoup, je dois le dire, beaucoup de démarches qui devaient être faites avant de l'implanter partout. Mais là, donc à Sainte-Justine, dans la région de la Naudière, il y a le centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Sorel qui l'offre maintenant.
Bon.
L'hôpital Pierre-Boucher, ça s'en vient. Puis là, au Québec, écoutez, on espère là, que d'ici 2 ans au maximum, tout le Québec au complet pourra bénéficier de ce
programme-là.
Programme. Oui, c'est tellement important, comme je vous dis, là, pour l'enfant. Ça fait toute la différence.
Je pense aussi, Madame Case, aux régions éloignées. Souvent tellement défavorisées dans tellement de choses. Enfin, c'est...
Je vous donne un exemple. Ça va loin, là. Mm-hmm. L'enfant est dépisté, là. D'accord, il est dépisté. Bon, OK, l'enfant a une surdité. Mais disons que le parent décide que l'enfant peut avoir l'implant cochléaire, il faut qu'elle aille à Québec.
Ah oui.
Alors, ça se fait pas ailleurs vraiment, là. Alors, il faut qu'elle aille à Québec, peu importe la région d'où il vient, il faut qu'il aille à Québec, alors avec tout ce que ça comporte, évidemment. Et puis, après ça, c'est pas tout, là. Lorsque l'enfant, il est implanté, là, il y a tout un suivi aussi là, à faire, là. Il y a une réadaptation, etc. Puis là, imaginez, après ça, ils peuvent décider de l'implanter dans l'autre, sur la deuxième oreille. Des fois, ça arrive. Alors, oui, pour les familles, là, c'est des bouleversements.
C'est
le bouleversement d'apprendre la surdité d'abord.
Oui.
Après ça, écoutez, là, c'est la farandole là, de rendez-vous, de spécialistes, etc., etc.
Oui.
Puis finalement, il va être pris en charge par le centre de réadaptation de la région. Par contre, là, il va pouvoir avoir un suivi là.
Bon.
Puis là, l'AQEPA, mais elle est là pour ça. Hein,
oui, c'est ce que j'allais dire. Heureusement. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un, en ce moment, qui nous écoute, ne sait plus à quel sein se vouer, j'imagine qu'on peut vous contacter, Mme Case, bien sûr.
Oui, oui. Puis moi, j'invite tout le monde à aller sur notre site.
Oui.
Alors, c'est www.aqepa, donc aqepa.org.
Parfait.
Il y a beaucoup d'informations qui sont là, mais les parents, c'est plus pour dire aux gens qu'ils ne sont pas tout seuls. Hein.
Non, c'est ça.
Tous les parents qui sont à l'AQEPA, ils sont passés par là. Il y en a beaucoup qui sont prêts à aider, à accompagner, etc., de démystifier un peu tout ça. Là.
Et lisez avec vos enfants dès le plus jeune âge.
Vous avez tellement raison.
Et c'est vrai pour tous les enfants. Non, jamais.
Ouais.
Non, effectivement. Alors, lisez. Moi, je pense que ça passe par la lecture. Ça, c'est en tout cas, mais
pour
je sais pas.
Pour tous les enfants. En attendant, la lecture, c'est primordial. Écoutez, on peut tellement développer notre vocabulaire avec ça.
Exactement.
Et voyager,
c'est vrai.
C'est bon.
Madame Case, Edith Case, hein, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'AQEPA, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous parler et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour les enfants malentendants du Québec.
Ben écoutez, mon Dieu, merci. J'apprécie beaucoup. Moi,
je
merci.
De rien, Madame Case. Allez, on se reparle.
Merci.
D'accord, au revoir. Par actualité nationale, l'éducation ne représente pas toujours une porte ouverte pour les personnes à besoins particuliers au Canada, écrit Paloma Martinez. À l'école, les personnes à besoins particuliers du Canada se heurtent à des obstacles et difficultés considérables, conclut la Commission canadienne des droits de la personne, CCDP, dans un rapport publié récemment. Le document révèle qu'à travers le Canada, ces personnes n'ont pas droit à une éducation de qualité, ce qui les empêcherait de se tracer un chemin vers la réussite dans le marché du travail. L'éducation devrait normalement représenter une porte ouverte sur le monde pour les personnes handicapées. Malheureusement, elle se frappe à un mur la plupart du temps, déclare Marie-Claude Landry, présidente de la Commission. Comment pouvons-nous espérer que les personnes handicapées fassent leur chemin et réussissent dans le marché du travail si nous ne leur donnons pas d'abord l'éducation de qualité à laquelle elles ont droit? Quand je suis allée au Yukon l'an dernier, j'ai vu de mes yeux ce que vivaient les élèves handicapés, ajoute Mme Landry, dans des communautés nordiques isolées. Il arrive qu'une personne handicapée ne puisse même pas choisir d'étudier ou non, simplement parce qu'il n'y a pas de service d'aide lui permettant d'aller à l'école. Nous pouvons et devons faire mieux pour les personnes handicapées au Canada, tant de la génération actuelle que des suivantes, aussi bien dans les communautés éloignées qu'en milieu urbain. Quelques chiffres ici. Environ 3,8 millions de Canadiens adultes sont déclarés être limités dans leurs activités quotidiennes à cause d'une incapacité. Et ça, c'est un chiffre qui date de 2012, soit quand même 13,7% au Canada de la population adulte. Et par ailleurs, plus de 11% des adultes canadiens ont éprouvé un des trois types d'incapacités les plus répandus, douleur, mobilité et flexibilité. À l'international, ça c'est une belle petite nouvelle qui fait plaisir à entendre et à lire. L'émission pour les enfants, Sesame Street ou Sesame Street si vous préférez, accueille un personnage autiste, écrit Émilie Geffray, c'est dans le Figaro en France, mais on parle bien de la série américaine. Il s'agit de Julia, une petite fille aux cheveux orange qui fera ses premiers pas dans la série télévisée éducative américaine pour enfants en avril sur HBO et PBS. Depuis 1969, Big Bird, Cookie Monster, Elmo ou encore Grover font la joie des petits Américains dans Sesame Street. En 47 ans, la série télévisée éducative lancée par PBS a connu plusieurs versions, accueilli bon nombre de nouveaux personnages, à l'instar de Julia, une petite fille aux cheveux orange qui, en avril, fera ses débuts. Pour la première fois dans l'histoire du programme Jeunesse, les producteurs ont souhaité intégrer le personnage déjà présent dans les livres en intensifiant son rôle. Dès le début, on s'est demandé comment nous pourrions parler d'autisme dans Sesame Street, a confié Christine Ferraro, scénariste sur CBS News. C'est difficile parce que les troubles de l'autisme se manifestent de façon différente selon les personnes atteintes. Dès sa première apparition, les téléspectateurs percevront les signes communs. Je viens de perdre ma ligne, mes amis. Donc, dès la première apparition, les téléspectateurs percevront les signes communs qui se manifestent dans cette émission culte, ce qui me permet de vous rappeler juste avant que cette émission se referme, que c'est une primeur, mais le Québec a dévoilé il y a maintenant une heure son plan pour l'autisme. C'était les paractualités avec Clotilde Sey. Bonne journée et à demain, 11h30.